Il est 7h.
France Inter. Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Bienvenue sur Inter, bonjour à tous. Nous sommes le lundi 15 juin. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, le quasi-retour à la normale annoncé par Emmanuel Macron. Au programme, la réouverture des bars et des restaurants en Ile-de-France dès ce matin, le retour à l'école obligatoire dans une semaine et la reconstruction d'une économie que le chef de l'État souhaite forte, écologique et solidaire. On voit ça en détail, Agnès, après les autres titres.
L'économie, justement, avec des discussions qui se poursuivent pour préserver l'emploi, via notamment les dispositifs mis en place durant la crise. L'écologie, avec une mission pour évaluer la pollution de 9 grands fleuves européens. Ouverte ou fermée, un état des lieux des frontières ce matin. Et puis, c'est le jour J pour préparer sa visite au Louvre. Réservation désormais obligatoire.
Les invités de France Inter, aujourd'hui à 7h50, Léa.
Emmanuel Macron propose donc un nouveau pacte productif pour la France, plus souverain, plus écologique, plus solidaire, vous l'avez dit, a-t-il été convaincu? L'économiste Thomas Piketty sera avec nous à 7h50.
Et à 8h20, dans le grand entretien de la matinale, nous recevons Léa, la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye. Vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000.
France Inter.
Fini les zones rouges, puis oranges, toute la France est désormais en vert, à l'exception de Mayotte et de la Guyane où le virus circule encore activement. Zone verte, cela signifie une réouverture totale des bars et des restaurants dès ce matin. Dès aujourd'hui aussi, les visites sont autorisées dans les EHPAD et une rentrée de tous les élèves se prépare pour lundi prochain. Nous allons y revenir. Pour sa 4e intervention depuis le début de la crise sanitaire, le chef de l'État a donc annoncé l'accélération du déconfinement et lancer l'après-Covid. Cyril Gradiani.
À entendre Emmanuel Macron, avec ce ton volontariste, c'est le retour des jours heureux.
Je veux ce soir vous parler des jours qui viennent et dessiner en quelques lignes notre nouveau chemin.
Mais à défaut de réellement dessiner, le chef de l'État a surtout à peine esquissé l'après-Covid.
Nous allons retrouver pleinement la France.
Mais attention,
cela ne signifie pas que le virus a disparu et que nous pouvons baisser totalement la garde.
La crise a coûté près de 500 milliards à l'État, une dette colossale, mais promet-il ?
Nous ne financerons pas ces dépenses en augmentant les impôts.
L'autre volet de son discours, l'unité de la République. Là, Emmanuel Macron affiche sa fermeté.
Nous sommes une nation où chacun, quelles que soient ses origines, sa religion, doit trouver sa place. Est-ce vrai partout et pour tout le monde ? Non.
Le président a été très attendu alors que les manifestations contre les violences policières se multiplient partout sur le territoire.
Nous serons intraitables face au racisme, à l'antisémitisme et aux discriminations. Mais ce combat noble et dévoyé, lorsqu'il se transforme en communautarisme, en réécriture haineuse ou fausse du passé.
Hier soir, Emmanuel Macron n'a guère dévoilé ses intentions sur l'avenir, juste...
Je m'adresserai à vous en juillet, lancez les premières actions.
Il avait promis de se réinventer, mais visiblement la transformation n'est pas encore prête.
Alors une annonce était particulièrement attendue, c'est celle de la réouverture totale des bars et des restaurants en Ile-de-France où seules les terrasses pouvaient accueillir des clients depuis le 2 juin. Bonjour Thibault Lefèvre.
Bonjour Agnès.
Vous êtes en direct du Saint-Malo en face de la gare Montparnasse à Paris. Alors est-il possible ce matin, Thibault, de boire un petit café au comptoir ?
Bah, je vais vous décevoir Agnès, hein. Non, ce n'est pas possible. La salle, la terrasse bien sûr sont ouvertes, mais pas le comptoir, distanciation sociale oblige. Le café est officiellement ouvert depuis 2 minutes maintenant. Pour le moment, c'est encore très calme, car malgré la réouverture de la salle, on est loin, très loin de la frénésie des matins d'avant le mois de mars. Derrière le comptoir justement, Cédric, 27 ans de restauration.
Normalement à cette heure-là, je suis plein, mais bon là, il n'y a personne. On a toute notre clientèle de chantier, les taxis, VTC... Les gens de passage, le tourisme, mais là, bon, le tourisme, il n'est pas là. Et puis, on sent qu'il y a pas mal de clients qui ne sont pas au rendez-vous encore. Moi, 3 mois sans travail, ça fait 27 ans que je travaille, j'ai jamais été au chômage. Et là, ça fait vraiment du bien de se remettre dedans à fond. Puis, encore plus motivé que jamais.
Tellement motivé, Cédric, que quand le patron Jérôme l'a appelé hier peu après 20h, il a immédiatement répondu présent. Et depuis 4h ce matin, il nettoie et aménage l'espace comme il peut. Car l'annonce du président de la République a pris tout le monde de court, et notamment le gérant, il s'appelle donc Jérôme. Et il a eu du mal à mobiliser son équipe.
Hier soir à 8h, j'aurais demandé, les 3/4 ils ont été là, mais il y en a qui sont pas là, donc on se débrouille comme on peut.
C'était un peu tardif cette annonce.
J'aurais préféré qu'il le fasse jeudi ou vendredi en nous disant on ouvre lundi, on aurait pu prévenir tout le monde, faire les commandes on ne peut pas faire le dimanche pour lundi. les légumes sont fermés, donc on n'a pas pu commander en conséquence. Quand il a dit qu'on réouvrait, on était un peu stressé.
En temps normal, 11 personnes travaillent au Saint-Malo entre 6h et 2h du matin. Aujourd'hui, elles seront seulement 6, entre 7h donc et 1h du matin.
Merci Thibault Lefèvre en direct du Saint-Malo à Paris. Alors peut-être les bars pourront-ils se remplir lorsque les parents iront boire un petit café après avoir déposé leur enfant à la crèche ou à l'école. À partir de lundi prochain, le 22 juin, tous les enfants de la maternelle au collège devront retourner en classe. Ce sera obligatoire. Satisfaction de Francette Popineau, porte-parole du SNUIPP, le premier syndicat du premier degré.
Il était temps en tout cas de rendre les choses obligatoires, parce que l'école de la République doit être obligatoire pour qu'elle puisse profiter à tous. Ça, effectivement, c'est une bonne chose. Sur le reste, la possibilité pour tous les élèves de revenir, il manque sans doute des éléments dans la phrase, puisque nous n'avons pas compris s'ils reviennent tous les jours, s'ils reviennent en rotation, comment reviennent-ils? Et si tout revient comme normalement, il n'y a pas le respect des gestes barrières. On n'aura pas la distanciation dans les classes. Les enfants, ils n'ont pas un mètre devant. Hein. On ne va pas revenir non plus sur le lavage de mains, qui est un indispensable si on veut lutter contre le virus. Or, on sait très bien que les sanitaires ne sont pas en nombre suffisant. Donc, faire revenir tous les élèves et contraindre un lavage des mains régulier de tous les élèves, on n'y arrivera pas. Ou on passera sa journée au sanitaire. Donc, on a effectivement un tas de questions qui se pose, parce que quand on dit plus d'enfants, on dit aussi plus d'adultes dans une école. Est-ce que nous sommes bien autorisés par une autorité sanitaire pour remplir davantage nos classes?
Réaction recueillie par Delphine Simon, le ministre de l'Éducation nationale doit justement recevoir ce matin les syndicats pour préciser les modalités de retour en classe de tous les élèves. Rappelons que les lycéens et les étudiants restent à la maison. Et dans le journal de 7h30, nous reviendrons sur le volet écologie des annonces d'Emmanuel Macron hier soir. Cette accélération du déconfinement s'appuie sur l'amélioration de la situation sanitaire. 9 décès enregistrés à l'hôpital au cours des dernières 24 heures, moins de 870 patients en réanimation. La priorité est donc de reconstruire une économie forte, écologique et solidaire. Et il faut tout faire pour éviter les licenciements, a dit hier soir le chef de l'État. Les discussions se poursuivent aujourd'hui au ministère du Travail. Muriel Pénicaud reçoit les partenaires sociaux les uns après les autres pour évoquer la question de l'emploi des jeunes, de l'assurance chômage et de l'évolution des dispositifs d'activité partielle. Hélène Philly.
Vont-ils vraiment avoir leur mot à dire sur l'évolution de l'activité partielle? Les partenaires sociaux craignent d'être face à une page déjà écrite. L'État est progressivement moins généreux. Les entreprises prennent à leur charge 15% des indemnités depuis début juin et ce sera bientôt plus, au grand dam du patronat qui réclame le statu quo au moins jusqu'à la rentrée, le temps que les entreprises y voient clair. Les salariés pourraient aussi voir leur rémunération baisser. Inacceptable pour les syndicats, une folie s'est même emporté Laurent Berger de la CFDT la semaine dernière. Et puis il y a le dispositif spécifique d'activité réduite pour le maintien de l'emploi, l'ARME, sans parler de l'acronyme qui fait tiquer les syndicats. La mesure pourrait conduire, craignent certains, à une précarisation des travailleurs. Elle permet en effet aux entreprises en difficulté de conclure un accord pour baisser les salaires et d'être aidées financièrement par l'État en échange du maintien de l'emploi. Mais pour combien de temps et dans quelles conditions? Les syndicats sur ce point attendent de nouvelles garanties.
Et ce matin, retour à la normale pour les trains du quotidien à la SNCF, c'est-à-dire les TER et les Transiliens. C'est le début également ce matin de la campagne officielle pour le second tour des municipales. Rendez-vous dans une petite dizaine de minutes à 7h15 pour le Zoom de France Inter consacré ce matin à la ville de Lyon.
Il est 7h09, Agnès. En Europe, l'heure est à la réouverture des frontières en ordre dispersé.
Même si cet assouplissement annonce moins chaotique que les fermetures décidées unilatéralement et souvent sans concertation avec les pays voisins, l'unanimité n'est pas encore de mise. La carte de l'espace Schengen reste multicolore avec des feux verts, oranges ou rouges selon son origine et sa destination. Le détail avec Marie-Pierre Véraud.
La situation s'est apaisée avec nos proches voisins, hormis avec les Britanniques. Quarantaine toujours obligatoire. Belgique et Pays-Bas marchent au même rythme que la France. L'Allemagne a finalement rouvert dès hier soir et l'Espagne n'attendra pas le 1er juillet. Mais il faudra toutefois patienter jusqu'au 21 juin pour traverser les Pyrénées sans souci ni quarantaine. L'Italie avait-elle devancé l'appel dès le 3 juin? Il faut sauver la saison touristique. La Grèce aussi attend les touristes étrangers. Mais attention, si l'on vient d'Île-de-France, par exemple, dépistage obligatoire. À l'Est, la Pologne ouvre les bras aux Européens, mais pas la Tchéquie, qui a élaboré une carte selon les origines des voyageurs, quand la Roumanie reste fermée jusqu'à nouvel ordre. L'Autriche discrimine également en fonction de la nationalité, pas d'Espagnol, de Suédois ou de Britannique. Au nord, le Danemark n'accueille lui que les Allemands, Norvégiens et Islandais. L'Islande, justement, qui rouvre ses frontières, mais maintient un test obligatoire à l'arrivée. Il sera offert par le gouvernement jusqu'au 1er juillet.
Et pendant que l'Europe se déconfine, l'épidémie rebondit en Chine avec des dizaines de nouveaux cas recensés et le placement en quarantaine de 10 nouveaux quartiers à Pékin. La crise sanitaire a entraîné une surconsommation de produits plastiques, masques, gants jetables et autres emballages. Les scientifiques de la campagne Tara Microplastique repartent donc aujourd'hui sur les 9 grands fleuves européens étudiés l'année dernière pour faire un bilan, Sophie Becherel, avant et après Covid-19.
Retourner sur les 9 plus grands fleuves européens et voir ce qui a changé, c'est l'enjeu de cette collecte. Les scientifiques vont donc retourner sur la Tamise, le Rhin, le Rhône, la Seine, la Garonne, l'Elbe, le Tibre. Jean-François Guiglione est biologiste. Il coordonne cette nouvelle pêche aux déchets plastiques. Il explique qu'il s'agit de voir la proportion de ces nouveaux déchets, gants, masques ou emballages notamment.
Ici, on s'attend à avoir un impact immédiat, c'est-à-dire qu'un masque ou des gants qui sont jetés dans le caniveau, ils vont ensuite aller vers les fleuves et ensuite finir en mer, et ça va très très vite. Donc l'idée en fait, c'est justement de regarder les déchets qui n'ont pas encore été transformés, pas encore fragmentés.
Le procédé de collecte reste inchangé. Leila Mesterzheim, responsable de l'entreprise Plasticatsi.
On trace un 100 mètres de linéaire sur des berges ou sur des plages, et puis on va comptabiliser tous les macro-déchets, et comme on a utilisé un protocole européen, on va également faire des échantillonnages de petits plastiques, c'est-à-dire des micro-plastiques, pour avoir un maximum de données sur les sites qui ont été suivis durant la mission de l'année dernière.
La collecte permettra de voir si les Européens ont eu d'un pays à l'autre un comportement différent. La campagne de l'an passé avait mis en évidence de grandes différences, l'Allemagne étant plus attentive à la gestion de ses déchets que l'Italie, par exemple.
Il est temps enfin de réserver son billet pour le Louvre. Le musée rouvre dans 3 semaines, le 6 juillet, mais il est possible en principe depuis ce matin et indispensable, Isabelle Pesquier, d'acheter son billet en ligne.
Fini les vacances pour Mona Lisa qui risque d'avoir un choc, car quand elle va retrouver ses admirateurs, ils seront masqués. Pour éviter les croisements des flux, les parcours de visite seront fléchés, des visites guidées avec des groupes de 25 personnes maximum seront autorisées, certaines collections ne seront pas encore accessibles, comme la sculpture française du Moyen-Âge et de la Renaissance, ou encore les arts d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques. Mais sinon, rien que pour vous les visiteurs, toutes les collections d'antiquités du Proche-Orient, d'Égypte, de la Grèce et de Rome, les peintures françaises, italiennes, espagnoles et anglaises, les bijoux de la couronne ou encore les appartements Napoléon III. En tout, 32 000 chefs-d'œuvre du Palais du Louvre qui nous attendent non masqués pour nous émouvoir.
Réservation donc sur le site ticketlouvre.fr et sur les sites officiels de vente en ligne de billets.
Merci Agnès, c'était le journal d'Agnès Soubiran.